ce matin. Un message très important et très pertinent pour nous. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? On parle beaucoup, mais il y a une qualité quand on parle. Le monde parle beaucoup, mais nous espérons que c'est Dieu qui parle au travers de nous et qu'on peut être encouragé avec une parole de sens, une parole de raisonnement, une parole pas humaine dans la sagesse, une parole qui nous libre. On va lire. Premièrement, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, d'encourager avec ta parole. Éclaire nos pensées, nos cœurs, Seigneur. Construire et bâtir dans nos âmes. Et vivifie-nous, parce qu'on a passé une bonne semaine chargée. On a besoin d'être libérés de nos pensées, de toutes les choses qui passent dans le monde pour arriver de penser avec toi. Merci, Seigneur. Amen. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. On va lire. Paul, apôtre, fin de sa vie, dernière lettre écrite par lui à son disciple. Timothée, un jeune pasteur avec besoin de conseils. Et Paul va passer le flambeau après son ministère d'apôtre. Il va passer le flambeau de diriger les églises à Timothée, jeune pasteur, qui est timide dans sa caractère. Donc un encouragement et un conseil. Il parle de le fait que, verset 6, c'est pourquoi que je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Les mains imposées, prie pour lui, tu as reçu un don. Par un esprit de timidité. Verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais trouver une page. Ça mérite une explication. Puissance, force, amour, sagesse. On est dans un monde qui est incohérent, confus. Tout le monde crie et personne n'écoute. Confus. Et on va voir dans un petit survol très rapide de la livre des Actes qui décrit l'histoire depuis le début de l'Église jusqu'à le moment que Paul était en prison en chapitre 28. Donc, prison pour la première fois à Rome. Et la chose que je propose dans ce temps d'amener est que l'Église a reçu ses qualités. Nous avons reçu ça par Jésus-Christ, par l'esprit de timidité. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Pour l'éternité, on est scellés avec le Saint-Esprit, jusqu'au moment de notre rédemption, mais il va demeurer en nous. Et ces qualités sont reçues dans nos vies. Et l'Église naissante a manifesté ces qualités. Et c'est des choses que le monde n'a pas. Il y a un manque dans le monde. Nous avons beaucoup de choses dans le monde. L'homme naturel, ça veut dire ceux qui ne sont fait pas confiance en Jésus-Christ, ceux qui ont besoin d'être sauvés, nés de nouveau, peut posséder beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités. Mais ces valeurs, ces manifestations de l'Esprit de Dieu sont liées avec une vie supernaturelle, surnaturelle, on peut dire. C'est la vie de l'Esprit. La force dynamis dans le grec, nous avons le mot dans notre langue, dynamite, ça veut dire une force explosive. En plus, dynamo, c'est une énergie entraînement, mais c'est quelque chose de plus long en durée. Dynamis, force miraculeuse. Miraculeux dans le grec, et on va voir ça. Amour agapé. Le nom agapé, le verbe agapeo dans le grec. Nous avons quatre amours manifestés dans la Bible et quatre amours on peut voir dans le monde. Le quatrième, un amour inconditionnel qui sacrifie sa vie pour servir les autres. On voit ça avec Christ sur la croix. On voit ça avec les chrétiens. Troisième, sagesse. Ce n'est pas la bonne traduction. Le mot implique une discipline dans les pensées. Un esprit de maîtrise soi-même. Une des les manifestations de l'esprit, une qualité de l'esprit en Galates chapitre 5, 22 et 23 est tempérance. C'est une maîtrise de soi qui n'est pas possible pour l'homme naturel d'eau de Dieu. C'est seulement possible pour le croyant avec l'esprit qui marche avec le Seigneur. Une maîtrise de soi, une discipline et aussi une capacité de penser avec un raisonnement objectif et clair. Donc, plus que juste le mot sagesse, nous avons ces trois qualités. Et dans un monde qui est confus, je propose à montrer que c'est le même monde maintenant en 2000 ans en arrière, les mêmes problèmes, on est plus proche de l'avenir de Jésus-Christ. Presque. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. On sait qu'il va revenir pour chercher l'Église. Mais on peut dire que le même problème de l'humanité est là. La guerre, la maladie, les soucis de la vie, la pauvreté, l'injustice, les brisements de relations, les gens qui souffrent, les désirs de savoir, une recherche pour la vie et le but de la vie, la pression par les empires injustes et cruels. Et nous avons l'homme, parce que l'homme est toujours le même, dos de Dieu, toujours capable de faire des atrocités qu'on peut voir dans le 20e siècle, et on voit beaucoup plus dans le 20e siècle et 21e siècle maintenant. Donc, on va parler premièrement de la force. Première chose, nous avons reçu l'Esprit de Dieu est en Actes chapitre 1, verset 8. Actes 1, 8. Jésus lui-même dit, je lis la seconde, version seconde, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » et vous seriez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous n'avons pas la puissance de Dieu, on ne peut pas témoigner. On n'a rien à dire. On est juste une philosophie vaine. On a des paroles, mais il n'y a rien derrière. C'est une vie puissante avec Dieu. Deux mots utilisés pour la puissance. On a utilisé dunamis, mais un deuxième lié avec ça. Exousia. Exousia qui parle d'une authority. Jean 1 qui parle de que nous avons reçu Christ et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons le pouvoir, l'authority, parce que nous sommes les enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Donc, si nous n'avons pas l'authority, on n'est rien. Et si nous n'avons pas la puissance miraculeuse qui œuvre en nous, on n'est rien aussi. On est juste des gens qui parlent comme ça et les gens qui sont gentils, généreux, mais les rien. Et une accusation de ce monde est qu'on est, on est impotent, on est impuissant, on n'a rien à donner, on est juste les gens qui viennent dans un culte un dimanche matin, comme beaucoup qui font des autres religions, et pensent, oui, c'est des valeurs, c'est bien, mais vous n'avez rien à ajouter. Nous avons une puissance en nous. On ne sait pas qu'est-ce que se passe, mais en Actes chapitre 13, le deuxième exemple, Élimas le magicien, on a parlé de lui mercredi soir et on a parlé de lui pendant le cours de jeudi. Bar Jésus, son homme juif, Élimas le sorcier, le magicien, devant Paul l'apôtre. Paul parle d'être petit. Il était quelqu'un dans son stature petit, dans la taille petit. Devant quelqu'un qui était possédé par un démon, il faut savoir, les démons sont toujours là, comme ils sont là 2000 ans en arrière, en train d'opérer dans les pensées, de chercher d'avoir l'opportunité pour diriger la société dans une mauvaise direction. La direction d'être des prisonniers et d'être amenés à la destruction. Et nous avons Élimas devant le proconsul romain en Chypre qui cherche d'avoir cette influence sur un leader pour contrôler une grande population de gens. Et il oppose Paul en train de parler et de communiquer Jésus-Christ. Et devant, dans ces confrontations, le proconsul veut écouter parce qu'il en recherche spirituelle, mais Élimas veut opposer parce qu'il veut garder son influence. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit, tu es pervers, tu pervertis la vie de Dieu, tu n'as aucune part ici. Tu vas être aveuglé et tu vas marcher dans les ténèbres pour un certain temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aveuglé physiquement tout de suite, en train de sauter. Et le proconsul était sauvé. Il était étonné de voir tout ce qui est passé. Ça veut dire que nous avons une puissance et on peut voir une authority. Une authority. On va être confronté par les gens qui sont influencés par un esprit, par un monde spirituel ténébreux, contrôlé et dirigé dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens acceptent Jésus-Christ. Il veut que les gens restent comme Satan a fait. Il ne va pas laisser la porte ouverte pour les prisonniers. Il veut que les captifs restent captifs. Ça, c'est Satan. Ça, c'est le royaume de ténèbres. Mais Élimas était confronté à une puissance miraculeuse. Un homme boiteux. En Actes chapitre 13, je crois que c'est verset 12. Pardon, Actes chapitre 3, verset 12. Depuis sa naissance boiteux, personne ne peut faire des choses pour aider. Pas des médecins. Pauvre, en train de chercher pour l'argent. Et Pierre dit, il a regardé avec les yeux fixés. Pierre, l'apôtre, il a dit, regarde-moi. Il a regardé. Connexion entre les deux. Il a dit, lève-toi, prends ton lit, tu es guéri. Et aide-lui de se lever. Et l'homme a reçu la force miraculeuse dans ses échevins. Et il a toujours sauté et commence à louer le Seigneur. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Et il fait parce qu'il aime les gens. Il déteste de voir les gens prisonniers. Et il aime les gens. Ce n'est pas juste Dieu qui fait ça, mais il a utilisé Pierre de faire ça. Ça veut dire que pour nous aussi, Dieu veut utiliser ses disciples, les frères et sœurs dans la famille royale de Dieu. Ça, c'est chacun de nous. Il veut que les captifs soient libérés. Il veut que les gens soient sauvés et puissent voir la lumière parce qu'ils restent dans les ténèbres avec aucun espoir. Combien de gens vivent avec la semence de suicide dans ses cœurs, dans cette ville? Combien de jeunes qui vivent une vie de privilège, mais avec un manque, par l'amour de Dieu, par une relation éternelle avec un Dieu? Aucun espoir pour le futur quand on voit tout ce qui passe. Et quel est le besoin qui va être comblé? C'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes là pour manifester ça, parce que Dieu a mis dans nos cœurs cette autorité et cette puissance. Dieu habite en nous et il veut sauver les gens, il veut libérer les gens. Il va nous conduire de parler en parole. On a des contacts, combien de contacts ici en 12, 10? Et les gens soif qui cherchent. Ici aussi à Genève, les gens cherchent. Ce n'est pas pour une religion archaïque, quelque chose de vieux et d'eau de sens dans cette époque de modernité. Non, c'est d'avoir quelque chose de pertinent pour la vie. C'est pourquoi que nous sommes là. C'est pourquoi que cette église existe. La force. La force pour libérer un apôtre dans une prison quand les Sadducéens, quand les autorités religieuses amènent pour Pierre en prison parce qu'il prêche Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Un ange arrive et ouvre la porte. Et ça. Dieu a aveuglé les yeux de certaines autorités quand un missionnaire chrétien amène des Bibles dans un pays et c'est interdit de faire ça. Quand le nom de Jésus-Christ est interdit, mais un missionnaire passe par la porte dans la frontière. Et les douaniers cherchent par la valise. C'est passe. On est des témoins des choses. On voit que les ennemis sont, les yeux sont fermés. Afin que la ténèbre peut être et la lumière peut briller. Dieu fait toujours des choses surnaturelles pour toucher et que le message est donné et que les gens peuvent être sauvés et pour avoir le même espoir que nous avons. On est dans un pays de liberté, démocratie directe en Suisse. N'oublie pas les valeurs que nous avons, les privilèges dans notre société. et que l'Église peut profiter de faire ça pour manifester Jésus-Christ et pour aider les frères et sœurs qui n'ont pas le même privilège dans les autres pays. L'amour, agapé, un amour inconditionnel de servir les autres, un sacrifice pour la vie. Premier exemple, le gardien de la prison en Actes chapitre 16. La prison était prise par un tremblement de terre et toutes les chaînes du sang, toutes les portes ouvertes, et Paul et Silas, missionnaires, peuvent sortir avec tous les autres prisonniers. Ils sont en prison pour le nom de Jésus-Christ, amenés en prison. Et les portes miraculeusement ouvertes, et le gardien voit ça et prend son épée pour se suicider, pour se tuer. Pourquoi? Parce qu'il est responsable pour les vies des prisonniers, et quand les prisonniers sortent, sa vie est finie. Donc lui va se tuer. Paul a dit, arrête, on est tous là. Et qu'est-ce que s'est passé après? Cet homme a donné sa vie, sauvé par Jésus-Christ et sa famille aussi. On voit deux choses ici, la puissance de Dieu, bien sûr, mais on voit le mot de Dieu parce que Paul peut laisser cet homme de se suicider. Il n'a pas fait, il a dit, arrête, j'ai quelque chose. Un amour pour les hommes et les femmes et les enfants. Un amour plus pour servir une église pour des années. Paul était un apôtre, ordonné apôtre, mis à part par Dieu depuis avant la naissance dans le ventre de sa mère, choisi et consacré dans les yeux de Dieu. Mais il entre dans cet appel après il était sauvé. Sauvé en Actes chapitre 9, Actes chapitre 11, maintenant il entre dans une église grâce à Barnabas, grâce à Dieu bien sûr, pour amener à Antioche, qui va être le centre, église centre pour les missions vers les païens. Donc c'est le centre missionnaire. Nous avons des centres missionnaires dans certains pays, des églises grandes qui peuvent amener et soutenir les œuvres missionnaires. Je crois que Genève est un centre de missionnaires. Et je crois qu'on peut aider les missionnaires. Bien sûr, on peut aider plus. On peut envoyer les gens pour peut-être aider en Valais. Peut-être la vision est ça. Que certains de nous voient, si c'est dans le cœur de Dieu, partir à Valais quand l'église est faite et prête pour aider et soutenir les Valaisans parce que Dieu aime les Valaisans, comme il aime les Genevois et les Genevoises, et les Vaudois et les Vaudoises. Et nous sommes une église missionnaire comme Antioche. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour Dieu et important. Il a aidé et soutenu l'église d'Antioche pour plus d'un an. Plus, je pense. Un homme qui peut dire, mais je suis un apôtre, je peux faire grand chose. Pourquoi je suis en train de traîner ici dans mon appel? Non, l'amour a donné un repos pour servir pour le long terme, la longue durée. Ça veut dire qu'il ne cherche pas les grandes choses pour lui-même, il accepte les choses que le Seigneur donne aujourd'hui. Est-ce qu'on est impatient et cherche plus dans notre appel? Est-ce que nous avons des rêves avec Dieu? Est-ce que Dieu a parlé dans nos cœurs de donner quelque chose? Gloire pour son nom. Et nous sommes en train de dire, mais Seigneur, je suis prêt maintenant. Je suis prêt pour aller maintenant. Et le Seigneur dit, attends, continue de servir ton assemblée, repose et reste sous la couverture de l'Église pour ta vie et être préparé pour ta vie. Et si tu donnes ta vie pour servir, il va donner, redonner toutes les choses et les occasions que tu as perdues. Et beaucoup plus. L'amour parle d'un sacrifice qui est continuel. Je peux supporter beaucoup de souffrances et difficultés dans ma vie parce que j'ai l'amour inconditionnel de Dieu. Je ne suis pas là pour rechercher pour ma propre vie. Mais l'amour, je peux supporter un joug. Je peux accepter certaines choses qui sont difficiles dans ma vie et naturellement, je dis non. On ne cherche pas pour les moments sur le mont de transfiguration et dit, wow, Seigneur, que tous les jours pètent comme ça. Non, on est... On accepte la vie ordinaire parce que Dieu fait des choses dans la vie ordinaire. Il prépare nous pour les moments. On pense que Dieu travaille sur le mont de transfiguration. Non, ces moments sont rares dans nos vies. C'est le moment quotidien avec Dieu qui sont importants. Et on peut parler beaucoup de ça, mais ce n'est pas le message. Et la dernière chose, cette sagesse, une pensée objective. Nous avons une foule de gens dans la ville d'Éphèse. Éphèse. En train de crier pour 2 heures, grande et Diana d'Éphèse, parce que certains encourageaient une foule de gens de sortir pour poser les missionnaires en acte, Paul et Silas et l'équipe, d'entrer dans la ville et commencer à proclamer l'évangile, parce que c'était contre les entrées financières de certains hommes de fer qui utilisent ses vies avec l'idolâtrie d'un grec, un dieu grec, Dieu avec un petit dé, petit. Et donc, en train de crier avec une confusion. Et nous avons un groupe de gens qui entrent dans la ville avec un message cohérent et clair, et nous avons un groupe de gens en train de crier. Qui est le plus cohérent? Qui est le plus communicatif? C'est nous. C'est Paul et Silas. On est en train de communiquer. Qui a la pensée claire et un esprit objectif? Actes chapitre 7, Étienne. Étienne, martyrisé par les juifs religieux, parce qu'il a donné une leçon. Il a cité l'Ancien Testament précisément pour amener à le point vous avez passé à côté de le Messie que vous avez lu dans votre Bible et vous avez ignoré et vous avez tué sur un croix Jésus-Christ de Nazareth qui est le Messie. Et donc, qu'est-ce que se passe? Premièrement, il était confronté avec 70 hommes en train d'écouter des spécialistes dans la loi, donc les érudits. Et lui, un jeune homme, mais formé dans la parole avec l'Esprit de Dieu, peut clairement communiquer un message. Il a fait ça et ils ont tué le prêtre, il est mort. Mais ça décède. Le moment qu'il est mort, en train de mourir, il a dit, pardonne-les pour ce péché. Qui est clair, capable de réfléchir par le Seigneur, capable de voir avec une objectivité tout ce que ses ennemis sont en train de faire, et qui est en train de dos de ses propres sens, en train de crier et lapider. Qui a le bon sens? Qui est clair, qui a cette sagesse? Étienne. Nous avons, peut-être je vais donner un dernier exemple. En train de donner son témoignage, en Actes chapitre 26, devant Festus, le proconsul romain. Paul était là. Herod Agrippa Jr., le fils avec sa sœur, étaient les deux sont là pour écouter son témoignage. Après toutes les accusations des de juifs religieux, offensés par Paul et qui représentent mal le message de Paul, on va être représenté dans un mauvais sens, avec des mensonges parce que les gens protègent son propre entrée. Nous, nous utilisons les, qu'est-ce qu'on peut dire, les âmes spirituelles, pas les âmes physiques. Paul n'est pas en train de crier aux gens, « Non, vous êtes faux, vous êtes non. » Il n'était pas cherché la vengeance, il était clair et il a parlé. Et dans un moment précis, Festus a dit, « Paul, ton grande connaissance et étude, tu es dos de raison, déraisonné. Tu es en train de déraisonner. Vous êtes fou, en fait. Vous êtes dans la folie. » Et Paul a dit, « Non, je parle les paroles avec sens. Et là, mes paroles sont la vérité. » Pourquoi que je dis ça? Parce que nous sommes accusés d'être des, je cherche pour le mot, fondamentalistes, radicaux, un peu fous. Nous sommes les gens clairs dans nos pensées qui peuvent servir les autres, des ennemis qui nous accusent et on peut aider eux. Donc, on est critiqué, accusé par certains, mais la différence entre nous et le monde, et on est peut-être offensé dans nos cœurs, mais on veut le salut de ces gens et on va servir. Paul était un ennemi de l'Église, mais après, Dieu a utilisé pour être le meilleur ami et frère de l'Église. Dieu peut tourner le mal à bien, pour le bien. Nous avons objectivité. Il faut savoir ça, et c'est ma dernière parole. L'Église et les croyants sont capables de voir la vérité et la clarté et parler clairement avec amour, justement, et on peut communiquer l'Évangile. Et tous les autres, ils ont besoin d'écouter quelque chose de clair, objectif, qui donne l'espoir dans un monde qui n'a aucun espoir. Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons la force miraculeuse, l'amour sacrificiel qui sert les gens pour des années et des années jusqu'à la mort et la sagesse, cette objectivité, discipline, clarté dans nos pensées. De communiquer un message qui est vrai et puissant, qui change la direction et la demeure de quelqu'un pour l'éternité. Enfer, par défaut, mais avec la grâce de Dieu et la salut en acceptation de l'Évangile de Jésus-Christ, ciel pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci parce que tu as changé nos vies et nous sommes nouvelles créatures. Nous avons une espérance en nous et nous avons toi et nous avons l'amour, la puissance et nous avons cet esprit de maître de soi, discipliné, objectif, clair. Merci Seigneur. Bénis notre journée maintenant. Et le début de notre semaine, et que nous pouvons méditer sur tes pensées, Seigneur, que tu as données ce matin. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen.